Tu y porteras des lettres personnelles de moi, à chaque évêque en particulier. Et tu sais ce que contiendront ces lettres, mon Thomas, mon petit frère, ma volonté royale de te voir élire primat. C'est une plaisanterie, mon prince. Je ne suis même pas prêtre, mon seigneur. Tu es diacre. Tu as les délais. Tu peux prononcer tes derniers vœux demain et être ordonné dans un mois. Mais avez-vous songé à ce que dirait le pape? Je paierai. Mon prince, je vois maintenant que vous ne plaisantez pas. Ne faites pas cela. Pourquoi? Cela me fait peur. C'est un ordre, Becket. Si je deviens archevêque, je ne pourrai plus être votre ami. Extrait de la pièce de Jean Anouilh, Becket ou l'honneur de Dieu.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
L'affaire Thomas Becket a été une des plus grandes affaires politico-criminelles du Moyen-Âge. Thomas Becket est né en 1120 en Angleterre. Il fait des études à Paris à l'âge de 18 ans et il revient bardé de diplômes dans le royaume anglais. Il est ordonné diacre en 1154, mais surtout il devient chancelier la même année du roi Henri II. Ce qui fait qu'en devenant chancelier, second personnage du royaume après le souverain, Thomas Becket est devenu un des plus puissants personnages du royaume d'Angleterre. Il est chargé en particulier, en 1158, de négocier le mariage du prince Henri, fils aîné d'Henri II, avec Marguerite de France, fille de Louis VII. Et il se tire fort bien de ces négociations. Or, en 1161, l'archevêque de Canterbury meurt. Or, la volonté d'Henri II est, malgré l'opposition des chanoines de la cathédrale et de l'épiscopat anglais, de nommer son chancelier à la tête d'un des plus puissants et prestigieux archevêchés du royaume. Pendant un an, le roi demande cette nomination. Et finalement, le 23 mai 1162, il réussit à obtenir, bon an, mal an, l'accord d'une partie de l'épiscopat et surtout des chanoines de la cathédrale. Thomas Becket était diacre, mais il n'était pas prêtre, condition nécessaire pour devenir archevêque. Il est donc ordonné prêtre, puis ensuite archevêque et primat d'Angleterre. Il renonce d'ailleurs à son poste de chancelier, afin de ne pas cumuler des fonctions si prestigieuses, l'une à la tête de la royauté et l'autre à la tête de l'Église d'Angleterre. Mais ce qui va se passer, c'est que, alors que jusque-là, il avait été non seulement un proche conseiller du souverain, mais même un ami du souverain, une fois devenu archevêque, il se fait le défenseur des libertés de l'Église d'Angleterre. Or, le problème, c'est qu'effectivement, le souverain Henri II a des ambitions afin de contrôler les possessions et les nominations au sein de l'Église. Il veut en particulier récupérer des terres à l'Église aliénées à des laïcs. Il veut que les tribunaux ecclésiastiques soient soumis à l'autorité royale, ce qu'il explique lors des constitutions de Clarendon en 1164. À tout ceci, l'archevêque Thomas Becket s'oppose. Ce qui fait que, pressé par le roi, il entre en exil en France. Le problème, c'est qu'il va revenir en Angleterre, mais cette fois-ci avec l'autorité pontificale. Le légat pontifical qu'il est devenu revient dans le royaume en 1166. Et il va prononcer, au nom du pape, une excommunication envers le souverain en juin 1170, dans la mesure où le roi veut toujours dominer l'Église d'Angleterre, alors que la monarchie pontificale est au sommet de la réforme grégorienne qui vise justement à faire dominer les rois par le pape. On aboutit néanmoins à un compromis le 22 juillet 1170. Après quelques mois de tergiversation, Becket rentre à Canterbury le 1er décembre 1170. Or, le 29 décembre, alors que l'archevêque est en train de chanter les vêpres avec les chanoines de la cathédrale, quatre chevaliers rentrent dans le bâtiment. Les quatre chevaliers s'approchent de l'archevêque et, à la stupeur générale, le frappent violemment à coups d'épée et de hache sur la tête et dans le cou. L'archevêque ne survit pas, bien sûr, à ces graves blessures. Alors, évidemment, cet assassinat brutal, plein de sauvagerie, pose question. Les quatre chevaliers en question étaient des proches du roi Henri II. Est-ce à dire qu'ils ont reçu un ordre clair et précis du souverain qui, irrité par l'attitude de Becket, voulait s'en débarrasser à tout prix? Ou, deuxième hypothèse, ils ont entendu le roi se plaindre de l'attitude de l'archevêque, vouloir peut-être effectivement mettre fin à ses fonctions, et voulant anticiper la volonté royale, ont décidé d'éliminer Becket de leur propre fait. Il est probable que la seconde solution soit la bonne, et que le roi n'ait jamais ordonné véritablement un assassinat aussi sanglant. Peut-être avait-il envisagé un enlèvement ou des mesures d'exil envers l'archevêque. Il n'en reste pas moins vrai qu'en ce 29 décembre 1170, Thomas Becket est devenu un martyr de la foi. À l'annonce du crime, le pape Alexandre III réagit avec véhémence. Il lance un interdit personnel sur le roi, c'est-à-dire que le souverain ne peut recevoir aucun sacrement de l'Église. Il ne peut recevoir l'Eucharistie, il ne peut recevoir la confession, qui devient de plus en plus habituelle, même s'il faudra attendre le concile de Latran IV en 1215 pour obliger au moins une fois l'an à la confession auriculaire. Et donc, il est véritablement un paria. Le roi d'Angleterre, roi chrétien, est un paria religieux dans son royaume. Il va le rester pendant un an et demi. Ce n'est qu'après d'intenses négociations que le 21 mai 1172, le pape acceptera de lever l'interdit. Mais la personnalité de Thomas Becket, elle, va continuer au-delà de sa propre mort. Il va être canonisé en 1173, c'est-à-dire très peu de temps après sa mort. Et le roi Henri va être obligé de venir s'agenouiller devant la tombe de l'archevêque dans la cathédrale et faire ainsi amende honorable. Le 12 juillet 1174, Henri II viendra effectivement se recueillir et demander pardon pour la mort du prélat. Mais cette affaire marque bien un des grands débats du Moyen-Âge occidental, les relations entre l'État et l'Église. On a bien compris que Henri II voulait effectivement dominer l'Église, qu'il voulait s'assurer de la nomination des archevêques, qu'il voulait contrôler également les principales nominations au sein de l'Église d'Angleterre. Or, Thomas Becket, qui avait été un fidèle serviteur de la couronne lorsqu'il était le chancelier d'Henri II, était devenu, par sa nomination comme archevêque, un défenseur non plus de l'intérêt de la couronne, mais des libertés de l'Église. C'est ce d'ailleurs qu'avait bien compris Jean Anouilh quand, dans sa pièce consacrée à Thomas Becket, il fait dire à ce personnage, comme nous l'avons entendu au début de notre émission, qu'une fois nommé, il ne pourrait plus rester l'ami du souverain. Après avoir servi la couronne d'Angleterre, Thomas Becket, quitte à en mourir martyr, allait être un des grands défenseurs de l'Église d'Angleterre.